philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Joseph le 18 octobre 1985.
Nous allons commencer le cours de philosophie éthique, c'est-à-dire philosophie morale, hein, pour ceux qui peuvent se demander si éthique et morale, c'est la même chose. Vous voyez, il y a une expression grecque et l'autre expression latine. Le français emprunte au grec, emprunte au latin, pour en faire une synthèse supérieure. Alors, il faut essayer de comprendre. Dans une introduction historique, que je vais aller très rapidement là-dessus, mais il faut toujours, quand on aborde un sujet comme celui-là, comprendre un peu ce que les philosophes ont pu dire avant. Quel est le grand-père de la philosophie éthique? Si vous demandez de mettre ça sur un petit papier, ça m'amuserait beaucoup de voir les réactions différentes. Le grand-père de la philosophie éthique, c'est Socrate. Face aux sophistes. Parce que pratiquement, avec les pré-socratiques, il y a bien des problèmes moraux qui se posent, mais on ne peut pas dire qu'il y a une véritable philosophie éthique. C'est face aux sophistes. Les sophistes, vous voyez bien ce que ça représente. Ça représente ceux qui tombent dans une philosophie rhétorique. C'est très actuel. Ils ne cherchent plus la vérité, mais ils recherchent uniquement la persuasion en vue du pouvoir politique. Donc, c'est ordonné au pouvoir politique qu'on fait une certaine éthique, qui est une éthique, en réalité, une rhétorique. On essaie de voir comment on peut persuader les hommes. Par le fait même, il n'y a plus de vérité. Il n'y a plus que du vraisemblable. Et la méthode, c'est une méthode rhétorique. Avec des modalités très différentes. Il y a des sophistes qui ne croient à rien, sont les premiers athées. Il y a des sophistes qui sont presque nihilistes. Il y a des sophistes qui sont des braves gens. Ils parlent bien. Ils sont heureux de bien parler. Tous ces braves gens. Puis ça leur fait gagner un peu de sous, comme ça. Parce qu'ils donnent des leçons. Les sophistes étaient réputés pour être ceux qui faisaient payer assez cher leurs leçons, comme les psychanalystes d'aujourd'hui. Ça fait partie du métier. Ça fait partie de l'attitude, si vous voulez, qu'il faut prendre. Eux, c'était très net. C'était réputé pour cela. Et Aristote dit que les sophistes se drapent du manteau de la philosophie. Ils se drapent du manteau de la philosophie. Ils ne sont pas de vrais philosophes, mais ils en ont la forme. Et ils essaient de tenir place des philosophes. Les sophistes représentent quelque chose de très intéressant et important. Parce que c'est, si vous voulez, à un moment d'un certain syncrétisme, le point de vue de l'art, de la rhétorique, qui l'emporte sur tout. Et la rhétorique a commencé avec les sophistes. C'est la seule chose que les sophistes ont inventée. Ils ont inventé l'art de la rhétorique, l'art d'être de bons avocats, qui peuvent plaider n'importe quelle cause. ça n'a aucune espèce d'importance. Le tout, c'est de savoir persuader. On voit très bien ce que ça représente comme mentalité. Face aux sophistes, Socrate, au moins le Socrate de Platon, parce que vous savez qu'il y a trois Socrates. Certains pensent que Socrate, au point de départ, a été pris par les sophistes. Il y a eu un Socrate sophiste. Puis il y a eu un Socrate qui a voulu se purifier des sophistes dans un engagement militaire. C'est le Socrate de Xénophon. Et puis le troisième Socrate, c'est le Socrate de Platon. C'est le Socrate de la dernière partie de la vie de Socrate. Socrate n'a rien écrit. Mais de fait, on a trois aspects sur lui, tout à fait différents. Jeune Socrate, qui semblerait bien un rêveur, qui se laisse prendre par les idées du jour. Donc, un sophiste lié aux recherches de la nature. Puis le Socrate de 40 ans, engagé avec Xénophon. Et le Socrate de la fin de sa vie, le Socrate qui aurait reçu une grâce très étonnante à Delphes. À Delphes, il aurait reçu cette grâce intérieure. Connais-toi toi-même. Et c'est à partir de là que Socrate s'est présenté comme celui qui devait éduquer l'aristocratie grecque, les aristoi, qui étaient les seuls à pouvoir faire un peu des études. Alors, il se présentait comme celui qui était le maître de ces aristoi. La plupart du temps, ces aristoi avaient une carrière politique, étaient ordonnés à une carrière politique. Socrate les arrache à cette carrière politique pour les former à une connaissance de soi. Connais-toi toi-même. Pour prendre conscience de la grandeur de l'âme. Oui, c'est intéressant. C'est que c'est à partir de la connaissance de la noblesse de l'âme qu'au fond l'éthique a commencé. L'éthique a commencé avec ce sens que l'âme humaine avait une dignité plus grande que le corps et que l'âme avait des problèmes qui lui étaient propres, une certaine autonomie de l'âme et par le fait même une certaine responsabilité. C'est autour de ce problème de la connaissance de soi reçu à l'oracle de Delphes, que Socrate a commencé sa vie d'enseignement, à la différence des sophistes, il enseignait sans se faire payer. Il enseignait par amour de la vérité. Socrate est une figure, hein, dans la philosophie grecque, qu'il faut essayer de connaître. Socrate a eu une très grosse influence, n'ayant jamais rien écrit. Le père Demant avait écrit un livre, Socrate et Jésus, en montrant que tous les deux avaient un trait de ressemblance, puisqu'ils n'avaient rien écrit. Et que tous les deux étaient des sources d'une morale humaine. Mais il faut quand même bien voir toute la différence, hein, parce que c'est quand même pas tout à fait la même chose. Socrate reste un sage et quelqu'un qui a une dignité et une grandeur humaine sûrement dépasse beaucoup son temps. Il faut lire l'apologie de Socrate, de Platon. Évidemment, Socrate a eu l'immense avantage d'avoir un disciple comme Platon. Quand on a un disciple comme Platon, on est sûr d'être éternel. Par son disciple, qui avait du génie, je crois que Socrate avait du génie, et pas du tout le même que Platon. Un génie très intérieur, un génie très, je dis pas tellement contemplatif, d'un homme plutôt de méditation, de raisonnement. Face aux sophistes, il lutte contre les sophistes. Il montre que les sophistes, ça n'aboutit à rien. Et son arme, c'est l'ironie. L'ironie de Socrate, il faut comprendre ce que ça veut dire, hein, l'ironie de Socrate. Alors, l'ironie de Socrate, c'est une arme merveilleuse qu'il faut toujours avoir quand on est en face d'orateur. C'est très rude, hein, à manier. C'est de reprendre l'autre dans ce qu'il a dit pour lui demander ce que ça signifie. Et la plupart du temps, il ne sait pas ce que ça signifie. Et vous lui montrez par là qu'il a parlé pour ne rien dire. J'ai déjà cité ce petit exemple parce que c'est très significatif. C'était quand j'étais à Fribourg. Il y avait toujours les vedettes françaises qui venaient faire des conférences. Il y avait une vedette, je vous dis pas le nom, parce que c'est quand même quelqu'un d'assez connu. Il était tout à fait ses débuts, critique littéraire. Alors une grande conférence, forcément c'était un Français, nous étions tous invités, il fallait y aller. C'était impossible autrement. C'était le soir, évidemment on aime bien travailler le soir, après le repas, et là quand il y avait une conférence, la soirée sautait. Alors c'était très bien quand le conférencier avait quelque chose à dire, mais quand le conférencier n'avait rien à dire, ça vous mettait dans une sainte colère, l'irascible aidant, on devient particulièrement mordant. Et au bout de 5 minutes que je l'écoutais, c'était visible qu'il ne savait absolument pas ce qu'il disait. En profondeur, c'est un feu d'artifice. Ça marche très bien en Suisse. Le feu d'artifice parisien marche très bien. À Fribourg, ça marche très bien. Alors c'était extraordinaire, merveilleux, donnant. Alors je me suis amusé d'un petit truc socratique, de relever tous les gros mots qu'il pouvait dire, les gros mots philosophiques. Transcendance, dialectique, immanence, vas-y, il y en avait 10. Puis j'ai noté 1, 2, 3, comme ça je voyais bien, je comprenais absolument pas la signification de ces mots. À la fin de la conférence, comme toujours, on réunissait les Français autour du conférencier. Et on était censé le féliciter, lui dire combien c'était bon de sentir un air de Paris qui venait jusqu'à nous, et ainsi de suite, n'est-ce pas ? Moi, j'étais en colère. Parce que j'avais perdu ma soirée. Et c'était vraiment une pure perte. Alors, je ne voulais pas y aller, et la personne qui invitait chez elle me connaissait bien, m'a dit, mon père, il faut à tout prix que vous veniez. Non, il faut à tout prix. Je dis, mais je n'ai pas du tout envie. Et puis si je viens, je vais dire des choses qui ne vous plairont pas. Bien sûr, au contraire, venez, ça mettra un petit peu d'animation. Voyez, c'est très bien. L'antithèse, hein, donc, est importante. Bon, alors après que tout le monde a dit sa félicitation, dites-vous, qu'est-ce que vous dites, mon père ? Dites un petit peu. Comment réagissez-vous devant une conférence comme celle-là ? Ça nous intéresse de savoir la pensée du philosophe. Oui, très bien. Alors j'ai commencé par lui dire qu'il avait employé un certain nombre d'expressions philosophiques très à l'ordre du jour. J'en avais 10. Et j'aimerais beaucoup de savoir la signification qu'il met derrière ces mots. Alors j'ai commencé par les plus durs. Dialectique. Alors, m'a regardé. A dit, quand vous employez ça, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Je dis rien. Silence. Je dis, ça ne m'étonne pas parce que vous avez employé ces mots dans des contextes très différents où le même mot n'allait pas du tout. Visiblement, j'ai fait pour les 10. Silence. Hein, pénible. Alors, j'ai poussé, parce que ça, c'est Socrate. De temps en temps, il faut faire comme Socrate, quand on est en face de sophistes. C'est le seul argument qu'on a. Alors, c'est Socrate, Socrate fait ça. Et dans un monde de sophistes, on doit pouvoir employer le point de vue socratique. C'est de l'intérieur, vous voyez, quelqu'un qui vous débite un texte où visiblement, il ne comprend pas ce qu'il dit. Je lui ai dit, vous avez le droit, et je le dis toujours à mes étudiants, quand vous passez des examens, d'employer des mots dont vous ne comprenez pas le sens. Aux examens, vous avez le droit. Parce que vous le faites en face d'un professeur. S'il est intelligent, il vous coincera. S'il n'est pas intelligent parce que lui-même ne sait pas la signification de ces termes, il dira extrêmement brillant. Et c'est vous qui aurez fait passer l'examen au professeur. Vous avez le droit de le faire dans les examens. Mais quand vous faites une conférence, vous n'avez pas le droit. Oui, vous n'avez pas le droit. Parce que les gens viennent vous écouter. Ils perdent du temps pour vous. Et donc, vous devez enseigner quelque chose. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, ça, c'est différent. On peut discuter. Mais vous devez toujours défendre quelque chose. Qui vous semble être la vérité, ou une opinion politique meilleure qu'une autre. Vous n'avez pas le droit de parler uniquement pour faire un feu d'artifice. Parce que ça, c'est vous. Alors, c'était très, très touchant, du reste. Il s'est levé, et puis il m'a dit, mon père, je vous remercie. C'est la première fois que j'entends ça, et je suis obligé de reconnaître que c'est vrai. On m'a appris une rhétorique en disant que ça n'a aucune espèce d'importance, la signification des mots. Il suffit que ça plaise. Il m'a remercié. Alors il était plus grand que sa conférence. Je lui ai dit du reste. Je lui ai dit donc, ça prouve qu'il y a quelque chose en vous qui recherche la vérité. Eh bien, recherchez la vérité, n'acceptez jamais d'employer en conférence publique, pour nous aussi dans les sermons, ou en conférence publique, ou dans un cours, un mot dont vous ne savez pas la signification. On n'a pas le droit. Puisque le langage est fait pour communiquer la vérité. Et si vous employez un terme dont vous ne savez pas la signification, ben, vous n'avez pas le droit. C'est une falsification de la monnaie. On n'a pas le droit de falsifier la monnaie, même pour les autoroutes. Faire des pièces qui pèsent exactement le même poids, n'est-ce pas, et qui sont données. On n'a pas le droit de faire ça. Falsification de la monnaie. Et c'est pire de falsifier le langage et d'employer des termes dont on ne sait pas la signification. Bien, ça, c'est Socrate. Vous voyez, Socrate, c'est très grand, Socrate. Parce que c'est un souci de vérité. Dans un monde pollué, dans un monde sophiste, l'attitude de Socrate est très grande. Alors, il ne faut pas l'employer n'importe comment. Il faut l'employer devant des jeunes brillants. avait une catégorie particulière, hein, des jeunes intelligents et brillants, capables de faire mieux que ce qu'ils font. Alors on est là pour les éduquer, les faire passer à un plan supérieur, plutôt que de rester uniquement au niveau du brillant. C'est ce que faisait Socrate. Vous voyez ? Et en sens-là, Socrate est le premier qui fait comprendre qu'un dialogue, un enseignement, une conférence implique un aspect moral. Je n'ai pas le droit de faire n'importe quoi avec mon intelligence. Je n'ai pas le droit de faire n'importe quoi avec la parole, qui est le fruit de mon intelligence. Je dois maintenir un souci de vérité jusqu'au bout. Je dis ça, c'est parce que c'est le point de départ de la philosophie morale pour notre Occident. C'est pour ça que c'est intéressant. Et c'est pour ça que c'est important de voir que ça a commencé par un souci de rectitude dans la signification des mots. Et je suis persuadé que quand on vit une décadence morale comme la nôtre, on vit une décadence au niveau de la signification des mots. Et que peut-être la première chose qu'on doit faire, à la manière de Socrate, c'est cette ironie. Consiste à dire moi je sais pas. On sait très bien, mais moi je sais pas. Éduquer, vous avez même employé ce mot, qu'est-ce que ça veut dire? Et alors on se laisse enseigner. Si l'autre dit quelque chose de juste, on essaie de préciser. Et c'est excellent ça. Alors au point de vue fraternel, il ne faut pas le faire de trop, hein, parce que vous voyez ça, une récréation socratique. N'est-ce pas ? Ce serait très très joli ça. On dirait, ah, tu as dit ça, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais pas. Oui, la récréation n'est quand même pas une conférence. C'est non pas non plus un examen. Alors, la charité fraternelle demande qu'on n'emploie pas trop l'ironie socratique. Mais l'ironie socratique, quand elle est en face de sophiste, c'est merveilleux. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus efficace. Socrate emploie l'ironie face au sophiste et lui cherche à définir. Parce qu'il comprend qu'il faut une netteté de l'intelligence pour avoir une netteté du cœur. Et que si notre intelligence est perverti, notre cœur sera perverti. Et c'est pour ça qu'il cherche ses définitions. À définir correctement. Il emploie une méthode de définition pour purifier l'intelligence et pour permettre à la volonté de se purifier elle-même. C'est très intéressant ça. Alors, Socrate a eu un fils spirituel, Platon. On peut dire que Socrate, c'est un homme inspiré qui ne peut pas accepter la dégradation de l'homme et qui veut que l'homme soit digne d'être un homme et qui comprend que cette dignité, c'est d'abord cette rectitude de l'intelligence. Son fils spirituel, Platon, c'est tout à fait différent. Et je crois qu'il ne faut jamais séparer Socrate et Platon. Quand il s'agit de l'origine de l'éthique, parce que Platon, à la différence de Socrate, Socrate n'était pas un aristote, il ne faisait pas partie des aristoïens. Tandis que Platon, oui, il avait des ancêtres qui avaient été rois. Il avait deux oncles qui étaient dans la politique. Et quand on a des oncles qui sont dans la politique, les petits-neveux doivent y passer. Hein. C'est impossible autrement. On leur ferait une route et plante. Lorsque Socrate est passé, et Socrate, vous savez bien, on l'a accusé de séduire la jeunesse, c'est d'attirer à lui. Et il a attiré Platon. Et tant que Socrate était vivant, Platon ne pensait plus à la politique. Mais quand Socrate est mort, au bout d'un certain temps, le virus politique a repris dans le cœur de Platon. Et Platon a voulu unir ce que Socrate lui avait enseigné. Connais-toi toi-même. La recherche des définitions. Et l'atavisme des oncles. Et donc l'aspect politique. Et sa trouvaille, c'était de découvrir le philosophe roi. C'est une trouvaille extraordinaire. C'est Platon. Platon, c'est le philosophe roi. Il est royal, Platon. Tandis que Socrate, c'est beaucoup plus l'inspiré. C'est le philosophe inspiré. C'est l'être qui aime les hommes. Platon n'aime pas tellement les hommes. Il les trouve tellement médiocres que il a une tête de plus. Et donc, il doit être à leur tête. Et le philosophe roi a le droit de mentir. Parce que la masse qui est derrière est incapable de comprendre la vérité. Il y a un souverain mépris chez Platon par rapport à ce que représente le peuple. Oui, ça c'est la grandeur et la faiblesse de Platon. Il y a de la grandeur chez Platon. Quand on lit Platon, il faut toujours le lire par son sommet, philosophe roi. Et je crois que ça fait comprendre tout. Alors, momentanément, il a été au noviciat de Socrate. Un noviciat très particulier, mais un noviciat, c'est un noviciat. C'est un noviciat très, très particulier, mais pendant 8 ans, il a suivi. Il a reçu une secousse terrible par la mort de Socrate. Il a insisté. Il a fait partie du petit groupe des amis qui restait. Platon a dit à son épouse de rester un peu plus loin. Il a dit au revoir, puis il est resté avec ses amis. Il a bu la cigarette. Quand on voit quelqu'un qu'on aime tellement, comme Platon devait aimer Socrate, de voir cet homme prendre la ciguë parce qu'on l'obligeait de le prendre, il était moralement tenu de prendre la ciguë, puisqu'on le considérait comme s'opposant aux lois. Alors il a voulu obéir à la loi pour montrer qu'il ne s'opposait pas à la loi. Et pour Platon, c'était un devoir de réhabiliter la mémoire de Socrate. Il a mis tout son génie pour réhabiliter la mémoire de Socrate. Et les premiers dialogues sont des dialogues socratiques qui réhabilitent la mémoire de Socrate et qui montrent la grandeur de Socrate. Puis l'apologie de Socrate qui montre ce qu'est Socrate et qu'on n'a rien compris. Et qu'Athènes tue ses philosophes, ses grands hommes. Il y a un drame, hein, faut pas l'oublier, il y a un drame, un très grand drame, vécu au niveau moral, au niveau philosophique et au niveau politique. Et je crois que là, il y a quelque chose de très très grand au plan philosophique. Au point de vue histoire de la philosophie, c'est sûrement un des grands sommets, ça. Au point de vue qualité humaine, et grandeur humaine, Socrate reste un modèle, un héros modèle. Et il a commandé, on peut dire, toute la morale grecque, avec des modalités différentes. Et c'est ça qui est intéressant, de voir que quelqu'un comme Socrate, qui est mort par fidélité aux lois, par fidélité aux lois, et cependant, il comprenait que les lois devaient être pour l'homme. Ça, je crois qu'il l'a compris. Et que l'homme était plus que la loi. Connais-toi toi-même. Ça, la loi ne le dit pas. Et pour lui, c'était ça, connaître l'âme humaine. Alors on peut dire que Platon est parti de cette grande intuition. Toute la philosophie de Platon, c'est la connaissance de l'âme. Ça, j'en suis de plus en plus persuadé. C'est la connaissance de l'âme. Et on devrait reprendre toute la synthèse, si on peut faire une synthèse, et toute la démarche de Platon par le point de vue de la grandeur de l'âme. C'est le philosophe de l'âme, Platon. Avant tout, de l'âme contemplative. L'âme n'est âme que si elle est contemplative. Elle est liée au nous. C'est l'âme spirituelle. Elle est liée au nous. Et l'âme, justement, telle que Platon la voit, il la voit dans son immanence. L'âme a cette immanence profonde. Elle se connaît elle-même. Elle est capable de réfléchir sur elle-même pour progresser par sa propre connaissance. Et c'est en creusant ce problème que Platon découvre que l'âme liée au corps est dans un état qui n'est pas digne de l'âme, un état de punition. Et qu'il faut regarder l'âme avant cette punition. Et donc l'âme dans sa contemplation divine. L'âme possédant les idées, les formes idéales, étant elle-même forme idéale et le lieu de toutes les formes idéales. Le lien au corps est quelque chose d'accidentel, une punition. Donc, nous sommes là en présence, le premier fruit de la morale de Platon, de la morale de Socrate, c'est de nous donner une morale contemplative. C'est comme ça que j'intitulerai la morale de Platon. C'est une morale contemplative. À la manière de Platon. Parce que l'âme est contemplative. Et le problème moral, c'est l'âme unie au corps qui, par le fait même, implique l'aspect politique. Et l'aspect politique implique l'aspect éthique. Vous avez donc ces trois niveaux qu'il faut bien comprendre. Avant Platon, on ne parle pas beaucoup de théoria. C'est quand même important pour nous, hein, de voir que la théoria a commencé avec Platon. Et avec le problème de l'âme. On ne peut rien comprendre à l'âme sans la contemplation. La contemplation, l'âme, l'unie au corps. C'est malheureux, et c'est comme ça. On est unis à un corps. C'est une guenille. pauvre corps. Et alors, on est unis au corps accidentellement, à cause d'une punition. L'âme est prisonnière. Pour ça, quel génie. Pas étonnant, quand vous êtes triste à cause du corps, votre âme ne peut plus être contemplative. Si votre âme était contemplative, vous seriez du cortège de Dieu. L'âme divine, l'éthérium divine, l'éthérium né au niveau même des dieux, au niveau de Zeus. Et l'âme, dans son état primitif, avant d'être unie au corps, elle est du cortège des dieux. Elle est aristocrate, mais un sens très fort. Et c'est très beau de voir ça, du reste, chez Platon. Ce sens très très grand de la contemplation, qui est comme naturel à l'âme. L'âme unie au corps va impliquer communauté politique. La communauté politique existe, c'est un fait. À cause du corps. C'est à cause du corps qu'il y a une communauté. C'est bien évident. C'est pas à cause de la contemplation. Votre contemplation, elle n'a que faire de la communauté. Elle la laisserait tomber. Parce que dans la contemplation, on est seul avec Dieu. C'est plus agréable. N'est-ce pas ? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ben, si vous fréquentez Dieu, vous êtes divin. Tandis que si vous fréquentez les autres corps humains, ben, c'est lourd, ça s'additionne. La communauté politique et la communauté politique est l'éthique individuelle. Sachez que pour Platon, l'éthique s'enracine dans la contemplation. L'aspect éthique est au niveau politique de la justice. Pour Platon, c'est vraiment l'apparition de la justice et d'une justice politique, une justice communautaire qui est au cœur de tout le problème moral. Et Platon dit cette phrase que nous avons beaucoup de peine à comprendre, il dit ça dans La République. Et La République, c'est le dialogue sur la justice. Vous voyez bien, c'est le dialogue sur la justice. La République, c'est le grand livre, c'est la grande synthèse de Platon. Alors, Platon est parfaitement lui-même, il fleurit, il est à son sommet. Et cette politique nous montre l'importance de l'aspect de la justice qui est au niveau communautaire. Et Platon dit la justice au niveau politique est écrite dans des lettres majuscules. Tandis qu'au niveau de l'individu, elle est écrite avec des lettres minuscules. Donc, regardez-la dans la communauté. C'est là où vous la voyez beaucoup mieux. Hein ? Vous voyez cette chose curieuse de Platon. Regardez la justice écrite en lettres majuscules. Au niveau de l'individu. Donc, chaque individu participe de la justice qui est au niveau communautaire. C'est très curieux. Et ça, c'est très important, hein, parce que c'est un grand aspect et très curieux de ce que c'est que l'éthique. Contemplative, communautaire, politique. Et individuel. Mais l'individu n'apparaît que dans la lumière du politique. et le politique et l'individu n'apparaît que dans la lumière du contemplatif, de la théoria. C'est pour ça que je dis que c'est une morale contemplative, au sens très très fort. C'est très beau et c'est très grand. Cette morale, puisqu'elle est une morale de la théoria, c'est donc une morale de la connaissance. Pour Platon, le grand problème, c'est la connaissance. Si on connaissait bien ce qu'on doit faire, on le ferait toujours. Mais c'est parce qu'on ne le connaît pas. Donc, il n'y a pas de liberté au sens propre. Le moral est au niveau de la connaissance. Et le vice, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui est le vice. Quand vous ignorez quelque chose, nécessairement vous êtes un être errant. Et vous faites des bêtises. À cause du poids sensible qui nous pousse vers cela. Et alors vous voyez bien que celui qui est la tête de la communauté, donc le roi, les magistrats, ce sont eux qui possèdent pleinement la justice et qui possèdent donc parfaitement la morale. Ils ont une responsabilité de prince. Et parce qu'ils ont cette responsabilité de prince, pour la communiquer aux individus, au peuple, ils peuvent mentir. Dans cette perspective, nous comprenons qu'il n'y a pas de morale familiale. La famille n'existe pas. Il n'y a que l'individu. Et c'est pour ça qu'il y a le bien commun des femmes, comme le bien commun des propriétés. Pour une unité plus grande, c'est l'unité qui commande cette morale politique, parce que c'est la justice. On contemple le bien en soi. Et dans la lumière du bien en soi, on découvre la justice. Donc, cette hiérarchie très nette, hein, le bien en soi, le beau en soi qui entoure le bien en soi, qui s'identifie avec lui. On voit ça dans Le Banquet, qui est le livre sur l'amour. Alors c'est très très curieux parce que ce livre sur l'amour pourrait paraître en premier lieu une antithèse à une morale de la connaissance. Et c'est pour ça qu'il faut tout le temps regarder La République et Le Banquet. C'est très important de voir les deux comme une espèce d'antithèse entre les deux. Ce qui est sûr, c'est que dans La République, le bien en soi domine. C'est ce qu'on contemple. On contemple le bien en soi. La justice, c'est au niveau communauté politique. Et puis, la petite justice, au niveau de l'individu. Ou alors, c'est le bien commun. Dans Le Banquet, c'est la contemplation du beau qui conduit au bien. Ou plus exactement, c'est l'amour qui est métaxu, intermédiaire pour la découverte du beau et la découverte du bien en soi. C'est par l'amour que je découvre le beau et que je découvre le bien. Et vous voyez donc que l'amour n'est plus regardé comme un absolu. Il est regardé comme un médiateur. C'est donc pas une morale de l'amour, c'est une morale de la connaissance. Après Platon, Aristote. On en dira un mot la fois prochaine. Je veux regarder, voyez, en philosophie grecque, les différents types de morale. C'est très important, ça. Parce que c'est cette philosophie grecque qui a donné naissance pratiquement à toute notre philosophie occidentale. Alors, c'est important de la regarder dans le berceau.